Une grande ombre sur le royaume.
Pendant une douzaine de jours, le roi erra en lui-même comme un voyageur perdu. Par moments, encore qu'il se fatiguât très vite, il paraissait reprendre son activité, s'inquiétait des affaires du royaume, exigeait de contrôler les comptes, demandait avec une impatience autoritaire qu'on présentât toutes les lettres et ordonnances à sa signature. Il n'avait jamais montré un tel appétit de signer. Puis, brusquement, il retombait dans l'hébétude, prononçant de rares mots sans suite et sans objet. Il passait sur son front une main amollie dont les doigts pliaient mal. On disait à la cour qu'il était absent de soi. En fait, il commençait d'être absent du monde. De cet homme de 46 ans, la maladie en 3 semaines avait fait un vieillard aux traits effondrés, qui ne vivait plus qu'à demi au fond d'une chambre du château de Fontainebleau. Et toujours cette soif qui le poignait et lui faisait réclamer à boire. Les médecins assuraient qu'il n'en réchapperait pas, et l'astrologue Martin, en termes prudents, annonça une terrible épreuve à subir vers le bout du mois par un puissant monarque d'Occident, épreuve qui coïnciderait avec une éclipse de soleil. « Il se fera ce jour-là, écrivait Maître Martin, une grande ombre sur le royaume. » Et soudain, un soir, Philippe le Bel éprouva de nouveau sous le crâne ce terrible éclatement noir et cette chute dans les ténèbres qu'il avait connues dans la forêt de Pont-Sainte-Maxence. Cette fois, il n'y avait plus ni serre ni croix. Il n'y avait qu'un grand corps prostré dans un lit et sans aucun sentiment des soins qu'on lui prodiguait. Lorsqu'il émergea de cette nuit de la conscience, dont il était incapable de savoir si elle avait duré 1 heure ou 2 jours, la première chose que distingua le roi fut une large forme blanche surmontée d'une étroite couronne noire et qui se penchait sur lui. Il entendit aussi une voix qui lui parlait. « Ah, frère Renaud, dit le roi faiblement, je vous reconnais bien. « Mais vous me paraissez comme entouré de brume. » Et puis aussitôt il ajouta « J'ai soif. » Frère Renaud des Dominicains de Poissy humecta les lèvres du malade d'un peu d'eau bénite. « A-t-on mandé l'évêque Pierre? Est-il arrivé ?» demanda alors le roi. Par un de ces mouvements de l'esprit fréquents chez les mourants et qui les reportent vers leur plus lointain souvenir, ça avait été l'obsession du roi dans les derniers jours que de réclamer à son chevet l'un de ses compagnons d'enfance. Pierre de Latille, évêque de Châlons et membre de son conseil. On s'interrogeait sur ce désir, auquel on cherchait des motifs cachés, alors qu'on n'aurait dû n'y voir qu'un accident de la mémoire. « Oui, sire, on l'a fait mander, » répondit frère Renaud. Il avait effectivement dépêché un chevaucheur vers Châlons, mais le plus tard possible, avec l'espoir que l'évêque n'arriverait pas à temps. Car frère Renaud avait un rôle à jouer dont il n'entendait se dessaisir au profit d'aucun autre ecclésiastique. En effet, le confesseur du roi était en même temps le grand inquisiteur de France. Leur conscience partageait les mêmes lourds secrets. Le monarque tout-puissant ne pouvait requérir l'ami de son choix pour l'assister au grand passage. « Me parliez-vous depuis longtemps, frère Renaud ?» demanda le roi. Frère Renaud, le menton effacé dans la chair, l'œil attentif, était chargé à présent, sous le couvert des volontés divines, d'obtenir du roi ce que les vivants attendaient encore de lui. « Sire, dit-il, Dieu vous saurait gré de laisser bien en ordre les affaires du royaume. » Le roi resta un instant sans répondre. « Frère Renaud, ai-je dit ma confession ? » demanda-t-il. « Mais oui, sire, avant-hier, répondit le dominicain, une belle confession, et qui a fait notre grande admiration et fera celle de tous vos sujets. Vous vous êtes repenti d'avoir harassé votre peuple et surtout l'Église de trop d'impôts, et aussi vous avez déclaré que vous n'aviez point à implorer pardon des morts ordonnées par votre justice, parce que la foi et la justice doivent assistance. » Le grand inquisiteur avait élevé la voix pour que les assistants l'entendissent bien. « Ai-je dit cela ? » demanda le roi. Il ne savait plus. Avait-il vraiment prononcé ces paroles, ou bien frère Renaud était-il en train de lui inventer cette fin édifiante que doit faire tout grand personnage ? Il murmura simplement « Les morts. » « Il faudrait que vous nous instruisiez de vos volontés dernières, sire, » insista frère Renaud. Il s'écarta un peu et le roi s'aperçut que la chambre était pleine. « Ah, dit-il, je vous reconnais bien, vous tous qui êtes ici. » Il paraissait surpris d'avoir conservé cette faculté d'identifier les visages. Ils étaient tous là autour de lui, ses physiciens, son chambellan, son frère Charles, à la stature avantageuse, son frère Louis, un peu en retrait, le col penché, et Enguerrand, et Philippe le Converse, son légiste et son secrétaire Maillard, le seul assis à une petite table contre les draps, tous immobiles et tellement silencieux et tellement estompés qu'ils semblaient arrêtés dans une irréalité éternelle.